Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir et bienvenue dans l'apérophonie, vous êtes sur Radio Campus 90.8 et même les jours fériés. Ce soir dans l'émission, on reçoit Fawzi Al-Haidi, chanteur et musicien d'origine irakienne. Son agent Béatrice, je ne sais pas si on dit agente.
Non.
Bon, bah, son agent Béatrice et Ludivine qui travaille à la source qui présente le concert demain soir. On a aussi Antoine à la technique derrière la vitre.
Bonsoir à tous.
Salut Antoine, tu pourras discuter avec nous si bon te semble. Merci d'être venu.
Merci
à vous. Et bienvenue et merci d'avoir bravé le temps froid, les jours fériés et l'alarme de Ève qui se déclenche. Alors voilà, cette apérophonie se déroule un jour avant votre concert, Fawzi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez jouer à Grenoble ?
Non, ça fait plaisir en toi. J'aime beaucoup cette ville, j'aime bien la montagne, j'aime bien tout ce public et que je le vis quand même plusieurs fois. Je suis venu au moins 5 fois ici. Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie de me recevoir.
Moi aussi.
Je me sens rajeunie avec des jeunes autour de moi, donc ça te va bien.
Bon, nous, c'est un plaisir. Et c'est la première fois que vous faites un concert à la source ?
Oui.
Ah.
Ça, c'est la nouveauté. C'est que c'est la première fois que je veux faire un nouveau projet qui s'appelle donc Miroir Nomade avec mon fils Amin Al-Haidi. C'est un très très beau musicien. Il a fait des études de guitare et classique. Donc il a une technique vraiment importante. Et après, il a joué de la basse électrique. Et maintenant, on fait la contrebasse. Et là, on fait un duo, oud et un contrebasse. Je suis vraiment très content, très touché de jouer avec lui. Et ça va être un moment important. Je dirais que Miroir, c'est quelque chose qui est reflète. On est nomade parce qu'on bouge beaucoup. Donc, on va vraiment voyager dans la musique irakienne, la musique arabe, le makam, voilà, tous ces modes musicaux qu'on va vraiment avoir le plaisir à rencontrer les gens.
Oui, bon, on a hâte d'écouter ça ce soir. Et Ludivine, comment est-ce que vous avez entendu parler de Fawzi et qu'est-ce que raconte sa musique et pourquoi ça plaît à la source ?
Alors c'est l'ancien programmateur de la source qui connaît bien Fawzi, qu'il avait programmé donc quand il était chez nous il y a quelques mois. Et quelle est la deuxième question, excuse-moi.
Qu'est-ce qui a plu particulièrement à la source ?
Bah, je pense que de toute façon à la source, nous on aime beaucoup déjà programmer de la musique traditionnelle et qui plus est quand elle chante un langage universel. Et c'est vraiment le cas de la musique de Fawzi, il me semble. Je pense qu'il en parlera mieux que moi, mais voilà, il a à cœur de dresser des ponts entre Orient et Occident et de donner aussi à voir sur la culture vraiment orientale, mésopotamienne, il me semble.
Bah, pour voilà. Donner une...
Mais c'est pas tellement à moi d'en parler le mieux, je pense.
Non, mais on va y venir évidemment. Quelques mots sur votre musique et vos inspirations, mais pour donner peut-être une petite idée à nos auditeurs de quoi on parle et ce que vous faites, on peut peut-être en écouter un morceau. On en a écouté un petit peu en tapis, mais on réécoute ici un solo.
Mmh.
donc un petit morceau pour nos auditeurs. L'instrument qu'on entend là, c'est l'oud.
C'est l'oud oriental. C'est un oud qui date de, je dirais, 3 millénaires avant Jésus-Christ. On a trouvé les premières traces à l'époque babylonienne. Et c'est un luth qui comporte, je dirais, 6 cordes doublées. Et donc, il y a un musicien qui était chassé de Bagdad, qui s'appelle Zeriab, et qui est venu en Andalousie au 7e siècle. Il a amené le oud en Espagne. Il a fait traduire cet instrument dans la musique du Moyen-Âge. Et après, les Occidentaux ont développé cet instrument. C'est devenu le luth occidental, la guitare, le théorbe. Mais le oud arabe, il a resté toujours très simple comme ça. Simplement maintenant, on le fabrique mieux. On a de très bons facteurs. Mais il a resté toujours cet instrument très intime, très chaleureux, très sensuel, parce que c'est un grand ventre. Donc on a l'impression... Quand on joue, c'est ventre contre ventre et ça vibre lorsqu'on joue. Vraiment, c'est incroyable. Et il n'y a pas de fret. Donc, c'est comme du violon, comme le violoncelle. Donc, il faut chercher les bonnes notes, il faut avoir les bonnes oreilles. Et ça permet à jouer tout le mode traditionnel, qu'ils sont majeurs ou mineurs, ou bien le makam, qu'ils portent du quart de temps.
Ouais, donc c'est vraiment un instrument authentique et traditionnel dans la musique arabe.
Tout à fait. Et... Je ne dirais pas seulement arabe, je dirais tous les pays autour des bassins méditerranéens ou tous les gens qui ne sont pas forcément musulmans ou qui ne sont pas arabes, ils jouent cet instrument comme la Turquie, l'Afghanistan, l'Iran, on le trouve même en Chine, il y a des gens qui jouent cet instrument, mais évidemment cet instrument typique du monde arabe, tous les gens le savent, et c'est oud, il vient de l'Irak. Donc c'est fabriqué par un maître de luthier qui les fabrique très 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 bien. Ça aussi est important, le choix, le bois, le cordes, les micros qu'on utilise. Tout ça c'est très important pour que cet instrument a pris vraiment une place importante actuellement.
Et votre oud il vient d'Irak, mais vous aussi, ça fait 40 ans que vous êtes en France, c'est ça?
Tout à fait.
Mais vous êtes originaire d'Irak, de Bagdad ou pas?
Je suis de Bassora, du sud de l'Irak. Bassora, c'est le seul port ouvert de l'Irak vers le monde entier. Et c'est la ville de Sinbad le marin.
D'accord, voilà. Ah oui, je l'ai lu.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis né là-bas et je suis né musicien. Je le savais parfaitement que je suis musicien. Et j'ai fait mon chemin tout à fait naturellement. Mes parents ne le voulaient pas, mais moi, j'étais persuadé que c'est de la musique qu'il me faut et que je dois étudier. Donc, j'ai quitté mes parents à l'âge de 14 ans. J'ai monté à Bagdad pour étudier la musique donc traditionnelle, le oud, le chant. Et j'ai appris aussi le hautbois occidental.
Et vos parents, ils n'étaient pas du tout musiciens alors?
Pas du tout. Mes parents, ils n'étaient absolument pas musiciens. C'est des gens, entre guillemets, normaux. Voilà. Papa, maman, les enfants, voilà, l'éducation. Ils aimeraient bien qu'ils deviennent médecins. Mais oui. Pas du tout un musicien parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de musiciens.
Mais alors, comment vous avez été intéressé par la musique, par les instruments?
Alors, moi, je... Sincèrement, j'ai senti que le son, les chants, les poésies, ça m'attirait l'attention. Et un jour, quand j'étais petit, vers 6 ans, un de mes profs, qui avait un visage un peu abîmé, et un jour, il est venu dans la classe et a amené un violon. Il a commencé à jouer du violon. Et moi, dans ma petite tête, j'ai vu ce bonhomme transformé. Et que je ne le voyais pas du tout brûler. J'ai oublié complètement que tes visages étaient ravagés par quelque chose. Il est devenu beau dans ma tête. Et j'ai conclu, jouer de la musique, on devient beau. Donc moi, j'ai dit, je veux être musicien.
C'était ça la racine
absolument,
de votre inspiration.
Absolument, c'est ça qui m'a vraiment poussé. Parce qu'après, il fallait aller étudier la musique. Je veux dire, les parents ne le veulent pas. Il fallait aller à Bagdad étudier la musique. Et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai étudié à 4 ans. Et malheureusement, Saddam il a fait un coup d'État. Il a interdit les Irakiens de voyager après mes études. Donc voilà, j'ai attendu de trouver une solution pour quitter l'Irak et c'était très compliqué. Et un jour, je travaillais à Radio Bagdad et Saddam est rentré dans le studio de Radio Bagdad pour visiter le studio. Donc c'était une chance pour moi de lui parler. Donc je lui dis, s'il vous plaît, monsieur le président, voilà, je dois étudier le hautbois classique à Varsovie. Et j'ai une bourse et je vous demande l'autorisation parce que là, c'est tout bloqué. Il m'a dit, pas de problème, je vous aiderai, je vous trouverai la solution.
C'est incroyable.
Une histoire. Semaine plus tard, j'ai reçu une lettre officielle. Tu vas faire ton service militaire au nord de l'Irak.
Oh non.
Et j'ai fait le service militaire au nord de l'Irak. Et après, j'ai juré de quitter l'Irak après cet accident diplomatique personnel. Parce que ça, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et donc, voilà, je suis venu à Paris au conservatoire pour étudier le hautbois. Donc, j'ai réussi à avoir un visa, c'est ça, des études qui a duré 6 ans. J'ai obtenu mon premier prix de hautbois. Et à la fin, je voulais aussi rentrer en Irak parce que mes études sont finies. Et un deuxième accident, c'est la guerre Iran-Irak, 1980. Mmh. Vous n'êtes pas né à l'époque, ça se voit. Donc voilà, donc ils m'ont demandé de retourner en Irak pour faire l'armée, la guerre. Et j'ai refusé de faire la guerre parce que j'étais parisien. Et bon, j'ai appris à cette liberté, les Français qui m'ont enseigné, de cette liberté importante, cette démocratie importante. Et voilà, moi, j'ai dit non, je ne le ferai pas à cette guerre et je préférais rester à Paris.
Et vous êtes rentré à Bagdad depuis ?
Je n'ai jamais pu rentrer. Mm. Voilà. Et actuellement, quand j'attends des nouvelles, ça me fait tellement plaisir. Je trouve que les jeunes Irakiens, ils ont compris, c'est maintenant qu'ils doivent changer l'Irak. Et faire un pays important. Mm. Et ils sont très courageux. Ils peuvent le faire.
Mm. Bon, c'est un beau message d'espoir, oui. Mm. Mais c'est si compliqué aussi de ne pas pouvoir revenir sur sa terre natale après tant d'années.
Je suis devenu plutôt philosophe sur cette question parce que je me suis dit, si j'étais resté en Irak, ben, je serais déjà mort. Donc ma vie maintenant c'est un cadeau pour moi que j'existe, je suis vivant et que je peux faire la musique, donc je remercie le ciel, c'est quelque chose d'important.
Vous avez pu continuer à faire de la musique, mais donc c'était très intéressant ce que vous disiez sur votre formation à la fois musique traditionnelle orientale avec le chant et l'oud et aussi du coup musique occidentale avec le hautbois.
Classique, absolument.
Classique, ouais.
Oui. Oui, oui. Mais c'est important d'étudier parce que l'étude, elle permet d'avoir de rigueur, de comprendre qu'est-ce que c'est la musique. Parce que la musique, c'est la même musique. Après, c'est un problème des styles. Mm. Mais les musiques, il y en a qui 5, 7 notes, hein, pas plus que ça. Donc à partir de ça, on fait ce qu'on veut.
On peut tout faire.
Voilà. Donc à partir de là, moi j'ai étudié, j'ai appris le solfège, j'ai appris l'harmonie, j'ai étudié l'orchestre, j'ai appris la rigueur, j'ai appris les premiers thèmes, les deuxièmes thèmes, le développement. Tout ça m'a ouvert l'esprit et après, j'ai commencé donc ma carrière en France, à Paris. Voilà, j'ai dit les choses qui m'intéressent beaucoup, c'est comment je peux construire un pont entre l'Orient et l'Occident. C'était ça mon travail important que j'ai fait vraiment tout le temps. Donc, j'ai fait énormément de créations et je n'arrête pas.
Oui, parce que vous êtes au cœur, en fait, de cette... vous êtes au carrefour de ces deux cultures, vos deux cultures, entre l'Irak et la France, entre la musique orientale et la musique occidentale. D'ailleurs, je crois que vous avez un album que vous avez appelé Paris-Bagdad.
Oui.
Pour montrer aussi ces...
Tout à fait.
Ces deux aspects de votre culture.
Oui. Le premier morceau qui est passé rapidement, que je l'ai composé, ce que j'ai joué à Hong Kong, plein guerre de golf. Et j'ai vu l'Irak de loin, comme ça. Bon, j'ai dit, c'est ça l'Irak, que je n'ai pas vu depuis 25 ans à l'époque, et je n'ai pas vu ma mère. J'avais beaucoup d'émotions en rentrant à Paris. Hop, j'ai écrit un album que j'appelais « Le Paris-Bagdad ». Et je sentais comme un oiseau libre. Et j'ai de la chance que je puisse revenir à Paris et que je puisse écrire de la musique. Et je trouve ça très important.
On a un morceau, Antoine, je crois, de l'album Paris-Bagdad.
Oui, tout à fait.
On peut peut-être le faire écouter.
On va écouter ça tout de suite.
Mmh. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. On était en train d'écouter un extrait de l'album Paris-Bagdad, une chanson qui s'appelle Nissa. Et nous sommes toujours en présence de Fawzi El-Haïdi et Ludivine de La Source. Nous vous rappelons qu'il y a un concert demain soir à aller voir, mardi 12 novembre, c'est bien ça?
À 19h30.
À 19h30.
Dans l'auditorium de La Source.
Et que vous pouvez également gagner des places avec Radio Campus. Alors, on n'a pas le mot de passe, mais...
Envoyez un mail, tout simplement.
Ouais. On va dire que le mot de passe, c'est Oud.
Voilà,
ça me semble être dans le thème.
C'est tellement
c'est
logique.
C'est Oud de nos mots de passe. Voilà. Et l'adresse mail, c'est quoi, Antoine? C'est
concours@campusgrenoble.org.
Voilà, donc tentez de gagner vos places, ça vaut le coup. On vient d'écouter un très joli morceau. Vous êtes à l'origine, Fawzi, d'une quinzaine de créations et d'une douzaine d'albums.
Mm-hmm.
C'est un beau parcours. Vous vous intéressez à plusieurs styles de musique. J'ai vu aussi que vous vous intéressiez à la musique électronique avec la Ishtar Connection.
Mm-hmm.
Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, avant de parler des stars, là, le morceau que vient d'écouter s'appelle Nissa, ça veut dire femme. C'était très important par rapport les femmes irakiennes, etc. Et puis, ce morceau qui était joué, on était quatre musiciens, mais demain, on va les jouer, un duo.
Avec
contrebasse, absolument. Ouais. Ce morceau sera joué demain. Et nous l'avons fait un autre arrangement complètement différent. Je viens jouer à Paris, c'était le 7, hein, je pense.
7 novembre, oui.
Le 7 novembre, la Dame des Contons, c'est un péniche parisien magnifique sur la scène, pour célébrer donc la sortie de notre 14e album, qui s'appelle Ishtar Connection. Ce sont des chansons traditionnelles de tout le monde arabe, de l'Orient et également du Maghreb, et quatre de mes compositions. Et nous avons fait un arrangement avec l'électronique. Et voilà, donc vous avez 12 titres. Et ça, c'est vraiment un objet qui vient sortir. Donc, elle est toute neuve, tout ça. Et chaque fois, je trouve un projet différent qui me pousse à créer quelque chose de nouveau. Et voilà, donc j'espère revenir à Grenoble pour le jouer dans un autre contexte, tout ça. Mais vous pouvez écouter également si vous voulez.
Je vais passer un morceau.
Avec grand plaisir.
J'ai sous la main Hali Hali Hal.
Excellent.
Très bien. C'est parti, on va s'écouter ça.
Alors, voilà.
Sure.
vous venez d'écouter un extrait de Ishtar Connection, c'était Hali Hali Hal. Donc c'est à l'origine d'un nouveau projet qui mêle musique arabe traditionnelle et musique électronique. Donc ça, c'est un peu le nouveau projet. C'est comme si vous essayez de moderniser un peu la musique traditionnelle ou la rendre un peu... Enfin, mélanger les styles, mélanger les genres.
Je dirais que c'est juste qu'une réflexion qui, ça me fait plaisir, lier un peu les passés avec le présent.
Ouais.
Tous les gens arabes qui connaissent ces chansons arabes très connues de l'Orient, du Maghreb et tout ça, et les jeunes qui ne connaissent pas ce genre de musique. Donc nous, on le modernise pour rapprocher deux générations. Et à Paris, c'était flagrant. Incroyable, il y avait des gens, toute génération, qui sont venus nous écouter. Et à la fin, tout le monde était debout à danser. Je trouve que c'est extraordinaire de toucher les gens pour les chansons, parce que ces chansons sont très connues. Mais les moderniser comme ça, le rendre plus moderne comme ça, et que les gens les adorent ça. Mais je trouve que ça me fait plaisir et j'aime bien rassembler les gens, en fait.
Ouais, très beau projet, mais ça me fait penser, il y avait un autre style de musique comme ça, Antoine, un peu quand on essaye de mêler de l'électronique à des musiques traditionnelles. Bon, il n'est pas du tout en train de mêler.
Si, il y a Omar Souleyman, je crois, qui a une approche un peu similaire, où il essaye de mélanger la musique traditionnelle syrienne, je crois.
C'est dansant aussi.
Tout à fait.
C'est du Shaabi, non, je crois.
Et il y a assez d'Arabes aussi, qui sont plus de recherche davantage que tout ça. Et évidemment, j'ai mis 3 ans à réaliser ces CD parce que justement mes réflexions étaient très objectives. Bon, qu'est-ce que je fais avec cette musique arabe avec l'électronique? Et ben, est-ce que j'aime pas mélanger comme ça n'importe comment, ça devient un club méditerranéen? Je voulais pas justement faire ça, et je voudrais que l'électronique reste à sa place, la tradition reste à sa place, et les arrangements sont là pour faire les liaisons. Donc c'est pour ça que ça a pris 3 ans, parce qu'on a fait vraiment, on a ouvert un laboratoire, on a tout essayé, et puis on a dit voilà, ça nous plaît, on assume que cette chose-là, on attend le rythme oriental, les mélodies orientales, mais il y a toutes les modernités qu'il fallait absolument les mettre, et avec bien dosé. Voilà, c'est pas prétentieux, mais il fallait vraiment passer le temps pour le faire.
Et donc, ouais, on rappelle quand même que ça, c'est votre nouveau projet, et que demain soir, à La Source, c'est plutôt un duo.
Un duo.
Un duo avec la musique traditionnelle, avec le oud.
Voilà, et la contrebasse.
Et votre fils qui joue la contrebasse.
Et qui joue très bien.
Et qui joue très bien. Ça vaut le coup d'aller vous voir demain soir. Votre oud, c'est comme votre partenaire musical, c'est l'instrument qui vous suit partout depuis toujours dans votre carrière?
Ben, j'ai toujours aimé le oud. J'ai toujours, quand j'étais tout petit, il y avait un oud qui était accroché au mur, mais je ne savais pas à qui il appartenait. Et j'ai toujours rêvé de jouer ça, et comme je voulais être chanteur, et ben, c'était logique que je dois jouer du oud, parce que les chanteurs utilisent cet instrument pour composer déjà et pour s'accompagner. Et cet instrument très intime, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, elle est très sensuelle et on a envie d'écouter. C'est comme on raconte une histoire avec le oud. Voilà. Et puis là, la contrebasse, il vient amplifier complètement le oud et les mélodies. Et Raphaël, il a fait tout un arrangement, je dirais plus moderne, qui va avec la contrebasse et qui complète et qui vraiment entoure les mélodies orientales. Et ça me fait plaisir d'entendre dans mon oreille cette vibration de oud et la contrebasse qui est assez grave, qui c'est énorme et que ça vibre, ça prend une racine.
Donc l'un accompagne l'autre. On a parlé de vos inspirations un petit peu, on a parlé de l'Irak, on a parlé de la musique traditionnelle, de l'oud, tout ça. Est-ce que vous avez d'autres inspirations, des choses qui vous inspirent dans votre musique, qui vous ont suivi tout au long de votre carrière musicale?
Moi, j'étais très très curieux. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de chance d'habiter à Paris. Pour une raison pas seulement d'exister, de vivre tout simplement avec cette liberté, mais j'ai découvert aussi que Paris, il était le centre international des musiques du monde. Donc, sincèrement, j'ai découvert la musique africaine, j'ai découvert la musique indienne, que je connaissais en Irak, mais j'ai découvert comment ce disque il existe à la FNAC de Paris. Et c'était vraiment un centre de musique arabe incroyable. On découvrait la musique de Bahreïn, on découvrait la musique de Yémen, et on découvrait la musique asiatique. Et tout ça, et un jour, évidemment, j'ai découvert le jazz. Et j'étais parmi les musiciens qui a fait un projet sur le jazz. À 89, j'ai sorti un CD qui s'appelle l'Oriental Jazz. Mais j'étais trop en avance. J'avais plutôt plus que de critiques que de compliments, parce que les gens ne comprenaient pas que j'étais musicien traditionnel et que je viens faire du jazz. Mais ce n'est pas un problème. En tout cas, j'étais le premier à faire ça. Et maintenant, tout le monde fait l'Oriental Jazz, et tant mieux, je suis ravi. Mais bon, j'étais en avance, comme je le disais. Donc voilà, j'étais vraiment en même temps, j'ai écouté quelqu'un qui fait de la musique électronique, il s'appelait Pierre, mais j'ai oublié son nom, il y a très très longtemps. Un monsieur, vraiment il y a une trentaine d'années, qui faisait l'électronique à l'époque. Et ça, ce son électronique... Il me chatouillait mes oreilles, mais j'étais trop pas prêt à y aller tout de suite. Donc j'étais plutôt dans la tradition, dans la modernité, dans les jazz. J'ai découvert aussi tout ce qui touche l'enfance, la famille, les chansons. Et ça, j'ai fait énormément de choses comme ça.
Ne serait-ce pas Pierre-Henri ?
Oui, Pierre-Henri. Ouais. Voilà, Pierre-Henri. Voilà. Ah oui. ça...
Pas n'importe qui.
Oui, mais justement, j'ai eu la chance de l'écouter. Comme j'ai eu de la chance d'écouter Miles Davis à la Villette.
Ouais. Oh, wow. Quelle chance.
Quelle chance. Je l'ai vu. C'est un magicien. Pas seulement un musicien. Parce que j'ai vu toutes les problématiques de la musique. Et comme lui, il fait la cuisine sur scène. Musical. Je l'ai vu, il venait voir ses musiciens, il le pousse à jouer dans une direction, et j'ai vu même il y a un problème technique avec le musicien, avec un micro, et il l'a fait sortir de la scène, il l'a accompagné jusqu'à où il va régler tes problèmes, et te revient après, il est venu les chercher, et qu'il jouait très bien parce que le micro ne marchait pas. C'est un magicien. Et c'est quelque chose qui m'a frappé vraiment. Je trouve aussi, j'étais tellement heureux de le voir comment il était habillé. Il était habillé d'une manière extrêmement moderne. Extrêmement moderne. On dirait qu'il avait 15 ans. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, et toute cette dimension de la création, du comportement, de la sincérité qu'il avait, parce que comme c'est un musicien qui fabriquait vraiment la musique avec les musiciens. Il jouait très très peu, mais il pousse les autres à jouer énormément. Donc voilà, tout ça m'a rendu un peu curieux et je suis ravi que je continue à créer.
Oui, tout ça, c'était des inspirations aussi pour votre propre musique.
Oui,
oui.
Bien sûr. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'essaye de l'apprendre d'une manière, je dirais, objectif, de ne pas le copier, mais m'inspirer pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Un jour, j'ai vu un film qui s'appelle « Zacco Vanzetti ». Avec John Baez qui chantait c'était simplement, je rentre chez moi, je prends mon oud et j'ai fait une autre chanson.
Comme quoi,
oui.
Tout peut être source d'inspiration.
Oui. Voilà.
Ça tient à rien.
Parfois c'est un film, une image, une photo. Non,
voilà. Oui, bien sûr. Je rencontre une femme très très belle à Paris. Elle te fait un sourire comme ça dans le ciel de Paris. Ben voilà. La journée, elle passe super bien.
Et on a une nouvelle chanson.
Exactement.
Vous aussi, Fawzi, lu beaucoup aussi Verlaine et Rimbaud en arabe en Irak.
Ah oui.
Et c'est une des raisons pour lesquelles il a choisi la France plutôt que l'Allemagne, par exemple, où il y avait aussi une école de hautbois.
Oui, c'est la France qui vous inspirait plus que l'Allemagne pour sa culture.
Non, parce que, bien sûr, merci Béatrice par rapport à cette remarque qui est vraiment bien, j'ai oublié Rimbaud. À 14 ans, je lisais Rimbaud en arabe. Tout est traduit à Bagdad. D'accord. Donc moi, quand je suis venu en France, la première chose que j'ai fait, je suis parti à Charleville pour visiter la maison de Rimbaud. Mm. Voilà, tout simplement. Et je l'ai chanté plusieurs fois en arabe. Et évidemment, parce que Rimbaud, il est venu toucher la culture arabe, il est voyagé dans le monde arabe. Donc c'est un poète qui était, pour moi, pas seulement français, il était plutôt universel, parce que quand même, il a poussé les charrettes très 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 loin dans sa poésie. Et c'est quelque chose, effectivement, ça m'a beaucoup beaucoup influencé. Et je lis beaucoup de poètes arabes du monde entier, quoi, du monde arabe, évidemment. J'ai chanté une fois en français parce que j'ai rencontré Claude Lemel qui m'a écrit un texte en français qui s'appelle « Les blues orientales ». Tout à l'heure, il est passé, je ne sais pas comment, par quel miracle technique.
Une superposition de chansons. Ouais.
Voilà, d'ailleurs, on peut l'écouter parce que c'est la première fois que j'ai chanté en français. Claude Lemel, c'était un grand monsieur, c'est un grand écrivain français.
Et c'est la seule chanson que vous avez chantée en français ?
Et c'est le seul complet comme ça, mais sinon j'ai chanté d'autres chansons plutôt pour enfants.
D'accord. Mm. Antoine, tu veux réussir
à nous... Les Bleus Orientales, s'il est là...
ça arrive tout de suite.
Voilà.
Tu nous la joues toute seule hein, cette fois.
Ne vous moquez pas de mes déboires.
Si mes oreilles étaient bonnes, hein, je pensais que j'ai entendu ça.
Non mais on salue Antoine à la technique, c'est la première fois qu'il fait ça de manière indépendante, c'est très bien.
Bravo Antoine,
on t'encourage.
Allez, c'est parti.
Entre mes doigts, je tiens sende, parfum du pays. Toi qui t'envoies de la baguette, pense à ton ami. En mon cœur entre le tigre et le foulard, au ciel des aïeux. Là-bas, là-bas, contenu à battre, mais coupé en deux. Je vis ma vie comme un phénomène entre des pays.
D'écouter Blues Oriental, c'est ça, de Fawzi El Aïdi.
Sur un texte, je me permets, de Claude Lemel. Donc Claude Lemel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était président de la SACEM à un moment donné, mais surtout un parolier très, très, qui a écrit des paroles très connues, d'artistes très connus comme Joe Dassin, Serge Reggiani.
Wow.
Donc Fawzi a eu la chance un jour que Claude lui propose d'écrire une chanson sur un texte qu'avait écrit Fawzi qui s'appelle Fraggy, qui est cette histoire avec l'Irak. Et donc, il a écrit, inspiré par ce texte de Fawzi, en français. Donc, c'était la première fois que Fawzi chantait en français. Moi, en tant que manager, je le poussais depuis longtemps de le faire, mais c'était difficile. Parce que ce n'est pas la même rythmique, ce n'est pas la même façon d'attaquer les mots. Et donc, il s'y attelait. Au début, c'était prévu par une chanteuse. Et on était au studio d'enregistrement et l'ingénieur du son lui a dit « Mais Fawzi, bon sang de bonsoir, mais chante-la cette chanson toi-même
!» Bah oui. Et il a bien fait.
Sur l'influence de la chanteuse qui était à côté de lui, ça l'a provoqué, ça l'a poussé. Mm. Et ça y est, c'était bon.
Nous, on a de la chance, c'est toujours la rencontre, comme on vous rencontre ce soir. On a de la chance de se voir rencontrer. C'est la même chose.
C'est nous qui avons de la chance
c'est
de vous avoir.
Avons
merci
ouais,
beaucoup.
Pour
c'est
le coup, tout merci.
Bon, il nous reste que quelques minutes pour terminer cette émission, mais on rappelle du coup que le concert aura lieu demain. Est-ce que vous avez des habitudes techniques ou spirituelles avant un concert pour que ça se passe bien? Ou alors vous avez peut-être trop l'habitude maintenant?
Non, mais un concert, c'est toujours un événement. Parce qu'il faut le préparer. De toute façon, on ne peut pas jouer le concert, donc il faut rentrer dedans, là-dedans. Moi, j'ai toujours bien préparé le concert d'une manière assez personnelle. Je dois faire attention à ce que je mange. Je dois être pas contrarié. Je dois préparer la voix, le oud, d'être vraiment dominer la technique à 100%. Et à partir de là, on a confiance. Cette confiance, elle est nécessaire. Parce que souvent, j'ai dit aux enfants, l'avion doit décoller ou non? Ils ont dit, bah oui, il doit décoller. Donc nous aussi, sur scène, on devrait décoller. On ne pose pas de questions, mais on prépare ça avant.
Et votre fils, il a aussi l'habitude de faire des concerts?
Ah oui, bien sûr. Il joue beaucoup avec d'autres artistes, etc. Donc ça, c'est la première fois. Tout d'un coup, il m'a dit, il aimerait bien qu'on puisse faire... la première projet, c'était vraiment Ishtar Connection, parce que c'est lui qui jouait la basse électrique dedans. Et c'est lui qui a fait tous les arrangements. D'accord. Que vous avez écoutés. Donc c'est la première expérience. Et c'est la deuxième, parce qu'il aimerait bien toucher à la musique traditionnelle. On a dit, voilà, on va faire un duo. On touche la tradition.
Qui était un peu créée à cette occasion, pour le coup, d'après ce que j'ai compris.
Tout à fait. Laurane, quand elle a voulu programmer Fawzi...
Laurent Stahl, donc le programmateur.
Laurent Stahl, pardon, voilà. A voulu programmer Fawzi et voulait le programmer en solo. Mais Fawzi, il avait plutôt envie de jouer en duo, maintenant, à certaines étapes de sa carrière. Et donc, comme Raphaël était depuis... Enfin, il s'appelle Amine Raphaël, en fait. Donc, Amine avait souhaité déjà jouer avec son père. C'était l'occasion. Donc, du coup, ils ont travaillé pour Fontaine. Ça sera la première demain de ce projet. Donc, en rencontre entre oud, chant et contrebasse. Et Amine est parti l'année dernière pendant un an vivre en Tunisie. Où il a appris l'arabe classique, l'arabe aussi dialectal tunisien, et il a enseigné la contrebasse jazz à l'Institut National Supérieur de Musique de Tunisie. Il a essayé d'apprendre aussi le oud, il apprend le naï, donc en fait, d'accord, c'est la flûte turque. Donc en fait, et voilà, il s'ouvre beaucoup aux origines de son père, et il a une culture jazzistique, mais très ouverte en fait, à toutes sortes de musiques modernes, électro, rap, enfin rock, classique, tout quoi.
Un musicien en herbe, polyvalent.
Voilà.
Waouh, bah super. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus.
Merci de nous avoir accueillis, Nina.
Bah, ouais,
merci
avec
beaucoup.
Plaisir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ouais, même. Voilà. Et nous vous rappelons que le concert aura lieu demain soir. Donc, c'est un duo entre l'oud, le chant et la contrebasse. Et c'est une rencontre entre la musique orientale, et on espère qu'on vous a donné envie ce soir avec cette émission radio. Merci à nos auditeurs aussi, merci Antoine à la technique.
Merci Antoine.
Merci Antoine.
Et bonne soirée, à bientôt sur Radio Campus.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci.